Bonjour, c'est Sophie Laurence. Je vous invite à partager un moment avec mes invités, les poètes d'hier et d'aujourd'hui. Cette nouvelle émission intitulée Les poèmes du lundi aura lieu chaque premier lundi du mois de 17h à 17h50 sur fréquence Mistral 99.3. Nous sommes faits par d'autres. La nature, le soleil, le cosmos, sauvage. Oui, sauvage, être. La vie sur terre. La beauté et la liberté de la nature terrestre, sublime. Contenant les mondes disparus et leurs traces, visibles encore à déchiffrer, inventer. À connaître une très longue histoire. L'agriculture a transformé les êtres humains et les animaux. Les hommes ont cru être le maître de la vie et du temps. L'humanité a droit à l'existence, à la vraie existence, avec la morale, l'équilibre, la force, enfin la vérité. C'est la seule voie. Pour la première fois dans un monde globalisé et bourré de contradictions, l'espèce humaine s'est dotée de la capacité de se détruire elle-même. Arme d'une cruauté sans précédent, arme bactériologique et chimique. Le napalm et le phosphore blanc utilisés contre la population civile dans l'impunité la plus totale. Les armes électromagnétiques et d'autres formes d'extermination. Aucun endroit dans les profondeurs de la terre ou des mers ne serait à l'abri des engins des guerres actuelles. Alors, Paul Éluard, il a écrit un poème qui s'appelle « Nous sommes ». Tu vois le feu du soir qui sort de sa coquille et tu vois la forêt enfouie dans la fraîcheur. Tu vois la plaine nue au flanc du ciel traînard. La neige haute comme la mer et la mer haute dans l'azur. Pierre parfaite et bois doux secours voilé, tu vois des villes teintes de mélancolie, dorées des trottoirs pleins d'excuses, une place où la solitude a sa statue souriante et l'amour une seule maison. Tu vois les animaux, sosies malins sacrifiés l'un à l'autre, frères immaculés aux ombres confondues dans un désert de sang. Tu vois un bel enfant quand il joue, quand il rit, il est bien plus petit que le petit oiseau du bout des branches. Tu vois un paysage aux saveurs d'huile et d'eau, d'où la roche est exclue, où la terre abandonne sa verdure à l'été qui la couvre de fruits. Les femmes descendant de leur miroir ancienne t'apportent leur jeunesse et leur foi en la tienne et lune sa clarté, la voile qui t'entraîne, te fait secrètement voir le monde sans toi. C'est avec nous que tout vivra. Bêtes, mes vrais étendards d'or, pleines mes bonnes aventures, verdure utile, ville sensible, à votre tête viendront des hommes. Des hommes de dessous les sueurs, les coups, les larmes, mais qui vont cueillir tous leurs songes. Je vois des hommes vrais, sensibles, bons, utiles, rejeter un fardeau plus mince que la mort et dormir de joie au bruit du soleil. C'est encore Éluard qui parle. La lumière et la conscience m'accablent d'autant de mystères, de misères que la nuit et les rêves. Alors, il a écrit un poème pour vivre ici. Pour vivre ici. Je fis un feu, l'azur m'ayant abandonné. Un feu pour être son ami, un feu pour m'introduire dans la nuit d'hiver, un feu pour vivre mieux. Je lui donnais ce que le jour m'avait donné, les forêts, les buissons, les champs de blé, les vignes, les nids et leurs oiseaux, les maisons et leurs clés, les insectes, les fleurs, les fourrures, les fêtes. Enfin, je vécus au seul bruit des flammes crépitantes, au seul parfum de leur chaleur. J'étais comme un bateau coulant dans l'eau fermée, comme un mort, je n'avais qu'un unique élément. Le mur de la fenêtre saigne. La nuit ne quitte plus ma chambre. Mes yeux pourraient voir dans le noir s'ils ne se heurtaient à des ruines. Le seul espace libre est au fond de mon cœur. Est-ce l'espace intime de la mort ou celui de ma fuite ? Une aile retirée, blessée, l'a parcourue par ma faiblesse tout entier, il est cerné. Durerai-je, prendrai-je l'aube, je n'ai à perdre qu'un seul jour pour ne plus même voir la nuit. La nuit ne s'ouvre que sur moi, je suis le rivage et la clé de la vie incertaine. La lune enfouit, les coqs grattent leurs crêtes, une goutte de feu se pose sur leur l'eau froide et chante le dernier cantique de la brume. Pour mieux voir la terre, deux arbres de feu emplissent mes yeux. Les dernières larmes dispersées, deux arbres de feu me rendent la vie. Deux arbres nus, le cri que je pousse. Terre vivante dans mon cœur, toute distance conjurée, le nouveau rythme de moi-même, froid, plein d'ardeur, froid, plein d'étoiles, et l'automne éphémère et le froid consumé, le printemps dévoué, premier reflet du temps, l'été de grâce par le cœur héros sans ombre. Je suis sur terre et tout s'accommode du feu. Plus les êtres humains s'acharneront à chercher des réponses aux tâches si profondes et si complexes associées à l'intelligence, plus cela vaudra la peine de s'efforcer de les tirer de leur ignorance colossale quant aux possibilités réelles de notre espèce intelligente. À créer cette espèce intelligente et est capable de créer, vivre dans l'ignorance, c'est nier absolument notre condition humaine. Rares sont ceux qui s'imaginent à quel point notre espèce peut être près de disparaître. Donc, répond Cor Éluard avec le poème « Mourir ». Plus une plainte, plus un rire. Le dernier chant s'est abattu sur la campagne informe et noire. Solitude aux hanches étroites, marraine des trésors perdus. Il n'y a de mur que pour moi. Misère, mille misères conjuguées peuvent faire le plus grand rêve. Mourir, forte mourir d'espoir. Moi, mon image s'est fanée. Unique à sa propre lumière, j'oublie, je suis oublié. Entre les murs, l'ombre est entière et je descends dans mon miroir comme un mort dans sa tombe ouverte. Qui ne veut mourir s'affole, qui se voit mort se console. Que sortira-t-il de toi, quelle danseuse immobile blanche très exactement? Quelle mendiante d'été aux vertus encore vertes, au sourire supplicié. Quelle belle aux gants pudiques, aux vierges, mains au front lisse. Quel jour, quel regard, quel songe. Aveugle aux ombres terrestres, tu mourras les yeux ouverts. Il y a la permission d'être heureux. Bon, c'est encore permis, je crois. Alors, c'est notre ami Jean Marcenac, qui est un poète que j'ai connu. Il n'est plus là, bien sûr, mais il est. C'est un poète qui a beaucoup participé à la résistance. C'était un ami d'Aragon et de Paul. Pablo Neruda, entre autres, puis aussi de beaucoup de grands personnages à cette époque. Alors, l'ami de... Parce que je... Vas-y, laisse la musique. Oui, c'est un oiseau qui s'enfuit devant l'incendie d'un jardin. C'est un petit fait, c'est une petite fille qui danse. Une épopée pour les enfants. C'est un cri d'homme inutile si la guerre est pour demain. C'est tout le temps la même femme avec son cœur à vol d'oiseau, son esprit de carte muette. La véridique, la rusée... Elle pleure les yeux ouverts, elle meurt au moindre reproche, elle célèbre à sa cloche de terre une victoire minuscule, un triomphe de Locke. Au pays de la poésie, les hommes de la liberté y mènent la vie du sang séché, la vie entre eux et le monde. Ils ne sont plus au goût du jour, ils ont la manie de l'oubli. Ils halètent sous la menace du soleil. Ils ont plusieurs heures d'avance sur le sort qui les attend demain. La pauvreté, la prison, rien n'y fait. Cette flamme monte plus haut que d'habitude. Alors il fait clair, il tombe de l'eau. Il y a la faim dont on a tant parlé, qui fait sortir les loups de la forêt. Et il y a aussi la poésie comme une énigme toujours résolue à résoudre, la poésie comme une époque incontredite, une ère de contradiction. La poésie, autant en emporte le vent, la poésie dans sa maison qui ressemble à tous les visages, comme une victoire sans lendemain, comme un piège contre l'absence, comme une épée pour les quatre saisons. Ceci n'est pas de moi, c'est de la poésie. C'est une statue d'eau dans un lac de flammes, dans le feu et d'ombre dans la nuit. C'est une vision que j'ai eue à la télévision. Voilà. L'enfant offre sa joie au soleil, dans les prés, dans la rue, sautant, élevant sa voix innocente et harmonieuse. Et survient la guerre, l'aide, kaki. Avec ses armes grises et empoisonnées, elle tombe sur la gracieuse enfant. Elle la fauche, laissant sur la terre une trace de sang précieux vite englouti, effacée à jamais, l'enfant. C'est une enfant palestinienne tuée par un jeune soldat israélien. Ça, c'est l'histoire vraie que j'ai eue. On a parlé comme ça, on nous a montré. Bon, un autre monde est possible. Vraiment possible. Aucune guerre n'est légitime. Une étudiante parlait. Le développement durable est pour moi incompatible avec la guerre. Car il n'y a rien eu de plus destructeur pour l'humanité que toutes celles qui ont eu lieu, surtout celles déclenchées récemment. Notre espèce marche vers l'abîme. On parle de plus en plus fréquemment de technologies militaires pouvant toucher la totalité de notre planète. La seule satellite habitable connue à des centaines d'années-lumière à la ronde. On ne saurait ignorer que si notre merveilleuse espèce pensante disparaissait, bien des millions d'années s'écouleraient avant que n'en surgisse une autre capable à son tour de penser, en vertu des principes naturels qui régissent l'évolution des espèces découvertes en 1859 par Darwin et admises aujourd'hui par tous les scientifiques sérieux, qu'ils soient croyants ou non. Donc la mémoire des morts de Jean Marcenac. Leur liberté n'est pas la nôtre. Un aveugle qui dit merci, l'autre qui chante, le troisième patient invente la machine à crever les yeux. Un enfant grandit à voix basse, à passer la colère au crible, à prendre le malheur au piège dans les lignes de la main. Nous l'appelions la rage au cœur. Il a volé le feu terrestre, cette foudre inverse du ciel. Alors, il faut dire non. D'un jour à l'autre, on a tendu le fil de l'eau, le fil de la vie, et du jour, c'est le fil même d'un regard bien posé sur la terre infecte. Ce que perd à tout coup cet homme insoupçonnable et qui crie aux mains du malheur, cela n'est rien. Ils ont beau jeu à faire la nuit sur nos rêves, beau jeu de mort sur nous vivants. Entendez-les, ils sont les maîtres. mais qu'ils prennent garde au regard que nous avons les yeux fermés à la place obscure où se lève l'oiseau inexistant échappé à nos cœurs. Nul n'est l'homme qui juge les juges et les condamne. Et quoi qu'il advienne, je l'ai juré par les nuages, je l'ai juré par le ventre des morts, je l'ai juré par la raison et par l'aurore, je l'ai juré par la mitraille des orages, je l'ai juré sur l'arbre desséché. Et cette unique feuille verte au vent tenace de l'espoir. Toujours de Jean Marcenac, la mémoire des mots. J'ai le sommeil léger des condamnés à mort. Ceux qu'on a tués hier m'empêchent de dormir. J'allège le sommeil, je condamne les morts, j'abandonne à la mer mes amis du naufrage et je les mêle à ma colère que j'oublie. J'ai le sommeil léger des condamnés à mort. Je perds avec mes morts la mémoire des mots. Le temps est-il si loin que nous vivions comme eux? Il faisait une mort à réveiller les morts. Le bourreau te prenait la main, il jetait ton cœur pur dans la profondeur noire. Tes yeux, trop clairs pour voir, se fermaient sur la nuit. Il préférait au jour ce néant sans entrave. Le ciel était absent et la colère et la vengeance allait de soi. Condamne donc les morts et sommeil léger. Mais que vous êtes lourds, mes morts de liberté, et comme votre poids nous tire à reculons, si le monde s'endort sans chercher à vous suivre jusqu'à la plage vide où vous vous rappelez, nous rappelez aussi le sang versé pour le réveil d'entre les morts. Et la colère et la vengeance qui s'oublient. Dans ce parcours, arrêtons-nous devant le tombeau d'esclaves. Oui, il y en a retrouvé un tombeau d'esclaves avec une épitaphe. Alors, oh, le pauvre vieil esclave, il a fini de travailler. Il était esclave ici. Mais il est libre, roulé. Faudrait pas le réveiller sur le bord du Tennessee. Il a fini de trimer, d'écouter brailler le maître, l'intendant aussi. Rien ne peut plus l'effrayer. Rien ne peut plus le chagriner au bord du Tennessee. Oh, la rivière est grande, il a traversé le gué tout tremblant, tout tracé. Oh, il faut pas l'éveiller, il était si fatigué au bord du Tennessee. couleurs rythmées de Labadi-Babi, qui est un poète algérien. La nuit noire de l'adversité n'avait point de reflet, seul celui des bombes arrosant des villages qui ne combattaient pas. Oh, pourquoi, ô mon pays, dirent les yeux effrayés à travers l'angoisse grandissante, sans connaître l'affaire en détail. Pourquoi, mon père, penses-tu que le Liban est aussi beau que mon pays, qu'il y a des coins paisibles où se trouve à l'aise des rêves des enfants? Penses-tu qu'il y a de la nourriture? Pas de réponse. Pour la première fois, les yeux du père se remplirent de larmes. Il était comme de l'acier, toute sa vie. La larme dans l'œil libre est une braise. Les planches du plafond pleines de scorpions, les murs bien ternes et l'atmosphère donnaient le vertige. Cette maison, oh maman, n'a jamais été belle. Pourquoi donc est-elle devenue si chère à nos cœurs, si belle à nos yeux? Source qui a donné, sans compter, au cours des années, qui, à ton avis, boira de ton eau à partir d'aujourd'hui? Qui? Parle, ô triste source! Taisez-vous. Qu'est-ce cette voix? Écoutez un instant, pour l'amour de Dieu, écoutez. C'est la triste voix du vieux Radi. Laissez l'eau, laissez les troupeaux, abandonnez tout et venez. Mille voix du haut des terrasses s'élevaient, chargées, inhabituelles, blessées. Berger, laisse ton troupeau où qu'il soit. Crois-tu que sa perte serait une tragédie alors que tout le peuple dans ce pays se perd? Laboureur, inutile de tourner le sol à l'horizon, la perdition avance à l'horizon, pointe l'exil. Venez. Une voix effrayante. Taisez-vous. Que vois-tu? Sors! Oh, mes malheurs! Oh, mes malheurs! Cria maman épouvantée. Le cri de maman secoua le fond de notre sang. Nous escaladâmes tous les murs. Notre village, notre chair Soumata est un brasier. La fille a été brûlée. Oh, mes camarades, je n'ai rien oublié, bien que je fusse enfant, camarade du village Soumata. Vers quel destin, oui, vers quel destin? Partir avec le soleil qui se couche et ne plus embrasser l'aube. Être de nulle part, n'est-ce pas ne plus être? On vous nie le fait même d'avoir été. Plus de racines, plus d'ombre pour couver d'innocents projets. On vous macule le passé, vous supprime l'avenir et vous vide du présent. Étrange exil, étranger sans boussole, oui, vers quel destin? Barbouillé jusqu'au fond de son être, l'exilé chevauche sa monture rétive et se dirige vers un fatal nulle part, à la recherche de l'infini, isolément. Que le silence de la steppe est grand. Reviendra-t-il de l'immense désert, de la désolation où être et ne pas être ne font plus question? Comment reviendrait-il? Comment? La question de Salim Jabran, le petit enfant de Soumata la martyre, nous abasourdit et bouleverse. Camarade de Soumata, vers quel destin? Que lui conseiller? Se sauver, pourra-t-on répondre, changer de lieu et d'air? Alors son compatriote Samil Al-Kassim nous interroge. Comment nous sauver? Al-Kassim vit en résidence surveillée à Haïfa. N'a-t-il pas besoin de se demander comment ? Et où se sauver? L'oiseau qui disait les poèmes de mon enfance à l'aube sur un figuier tout près de mon balcon. La rose rouge humiliée, découverte un matin au bord de l'insomnie humide de beauté. La fille qui pleura un soir sur mon épaule. Je lui avais dit, je pars. Vive ma liberté. Que sont-ils devenus? Direction l'aube. Celui-là n'aura rien compris au monde arabe. Y est-il depuis des années? Serait-il pied noir ou pied rouge? Sera-t-il un bar arabisant distingué qui ne sera jamais pénétré des préoccupations actuelles de ce monde? C'est surtout la poésie qui permet le contact avec l'intérieur, à la découverte du tréfonds de l'être, une rencontre non des corps ou des intelligences, mais des cœurs et des âmes. Fécondons le sang. Voilà, Brecht, Bertolt Brecht s'adresse aux jeunes. Ouais. Vraiment, je vis à une sombre époque. Le mot le plus doux secrète la rage. Le front le plus pur trahit la lâcheté. Quelqu'un rit-il? C'est qu'il n'a pas encore appris le deuil qui le frappe. Quelle époque! Celui qui s'entretient des arbres commet un crime et se fait le complice de crimes plus graves. Cet homme-là qui traverse la rue, ses amis dans le besoin, ne peuvent donc plus lui parler? C'est vrai, je gagne encore mon salaire, mais croyez-moi, ce n'est qu'un hasard. Rien ne m'autorise à manger à ma faim. On m'oublie, on m'épargne. Si la chance tourne, je suis perdue. On me dit « mange et bois, sois content d'avoir ce qu'on te donne ». Mais comment puis-je manger ce que j'arrache à ceux qui ont faim? Comment puis-je boire de l'eau de ceux qui ont soif? Et pourtant je mange et je bois. J'aimerais devenir un sage. Les vieux livres nous expliquent. Il faut se retirer des querelles du monde, vivre sans peur, se passer de violence, faire le bien pour le mal, ignorer ses désirs au lieu d'y succomber. Voilà la sagesse. Mais je ne veux rien de tout cela. Je ne peux rien de tout cela, vraiment. Je vis à une sombre époque. J'ai vécu dans les villes au temps des désordres et de la famine. Je vécus parmi les hommes au temps de la révolte et je m'insurgeai avec eux. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur terre. Je mangeais en pleine bataille, je me couchais parmi les assassins. Négligemment, je faisais l'amour et je dédaignais la nature. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur terre. De mon temps, les rues conduisaient au marécage. La parole me livra au bourreau. J'étais bien faible, mais je gênais les puissants, du moins je le crus. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur terre. Les forces étaient comptées, le but se trouvait bien loin, il était visible pourtant, mais je ne pouvais pas en approcher. Ainsi passa le temps qui me fut donné sur terre. Vous qui surgirez du torrent où nous nous sommes noyés, songez, quand vous parlez de nos faiblesses à la sombre époque dont vous êtes sortis. Nous traversions les luttes de classe, changeant de pays plus souvent que de souliers, désespérés que la révolte ne mit pas fin à l'injustice. Nous le savons bien, la haine de la misère creuse des rides, la colère de l'injustice rend la voix rauque. Oh, nous qui voulions préparer le terrain de l'amitié, nous ne sûmes pas devenir des amis. Mais vous, quand l'heure viendra où l'homme aide l'homme, pensez à nous avec indulgence. François Villon. En écho, écoutons François de Montcorbier, devenu François Villon, né en 1431 à Paris. Cette ballade vers 1489, éditée chez Pierre Levet, qui s'appelle « Le Grand Testament Villon et le Petit, son codicille ». C'est l'épitaphe de François Villon. Frères humains qui, après nous, vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car c'est pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous, merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6, quand de la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée, pourrie, et nous, les os, devenons cendre et poudre. De notre mal, personne ne s'en rit, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Ce frère, nous vous clamons, vous n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy, par justice. Toutefois, vous savez que tout homme n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque nous sommes transis, envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie. Nous préservant de l'infernale foudre, nous sommes morts, âme ne nous harie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a abués et lavés, et le soleil desséchés et noircis, pis, corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becquetés d'oiseaux que des accoudres. Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez, priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Prince Jésus, qui sur tout sa maîtrise garde qu'enfer n'ait de nous seigneurie, à lui n'ayons que faire, ni que soudre, homme, ici n'a point de moquerie. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Alors, plus près de notre temps, et plus loin de notre temps. Victor Hugo, dans les chansons des rues et des bois, le poème qui clôt les châtiments. Donc, à un certain moment de la vie, si occupé qu'on soit de l'avenir, la pente à regarder en arrière est irrésistible. Hugo a 63 ans et à Hauteville House, sa maison de Guernsey, il laisse échapper cet aveu en octobre 1865 à la tête de la préface aux chansons des rues et des bois. Ce livre, dira-t-il aussi, est écrit beaucoup avec le rêve, un peu avec le souvenir. 5 ans et demi après la première légende des siècles, 3 après Les Misérables, les feuillets des travailleurs de la mer sont là, sur la table. Le livre est presque prêt à paraître. Il y a bien d'autres poèmes dont il ne sait encore le chemin qu'ils prendront. Ébauche de la nouvelle série de la légende, poèmes politiques qui n'iront qu'après sa mort. Dans toute la lyre, avec beaucoup de feuilles noircies ces jours-là, et des poèmes inclassables, et certains parmi les plus beaux qu'il ait jamais écrits. Au mois de juin, il a écrit une petite pièce de théâtre, La grand-mère. C'est la première d'un livre étrange qu'il n'a pas encore imaginé, ce théâtre en liberté, où il rajoutera quelque chose qui n'est pas une pièce, un poème dialogué de l'ortie, du moineau, du caillou, que sais-je. La forêt mouillée, écrite à 11 ans plus tôt. Il écrit aussi pour les proscrits, pour la France et pour tous ceux qui luttent pour la liberté dans le monde. Quand le chef de l'expédition en Crimée, le général de Saint-Arnaud, est mort devant Sébastopol du choléra, il a salué ce cadavre d'un cri vengeur, n'oubliant pas que ce militaire était l'un des hommes du 2 décembre. On a lu le poème qui clôt les châtiments, la fin, qui correspond au déclenchement de la guerre franco-anglaise contre la Russie. Rappelez-vous, rappelons-nous, la guerre, c'est la fin. Ô peuple, nous y sommes. Pour t'entendre sonner, je monte sur ma tour. Formidable angélus de ce grand point du jour. Dernière heure des rois, première heure des hommes. Depuis 6 000 ans, la guerre. Depuis 6 000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Et Dieu perd son temps à faire des étoiles et des fleurs. Les conseils du ciel immense, d'Ulysse pur, du nid doré, n'ont aucune démence du cœur de l'homme effaré. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour, et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. La gloire, sous ses chimères et sous ses chars triomphants, met toutes les pauvres mères et tous les petits enfants. Notre bonheur effarouche, c'est de dire « Allons, mourons !» Et c'est d'avoir à la bouche la salive des clairons. L'acier, lui, les bivouacs fument, pâles, nous nous déchaînons, les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela, pour des altesses qui, vous à peine enterrées, se feront des politesses pendant que vous pourrirez. Et que dans le champ funeste, les chacals et les oiseaux, hideux, iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté. Et l'on souffle la colère dans notre imbécilité. C'est un Russe, égorge, assomme. Un Croate, feu roulant. C'est juste, pourquoi cet homme avait-il un habit blanc ? Celui-ci, je le supprime et m'en vais le cœur serein, puisqu'il a commis le crime de naître à droite du Rhin. Rosbach, Waterloo, vengeance, l'homme, ivre d'un affreux bruit, n'a plus d'autre intelligence que le massacre et la nuit. On pourrait boire aux fontaines, plier dans l'ombre à genoux, aimer, songer sous les chaînes, tuer son frère est plus doux. On se hache. On se harponne, on court par monts et par veaux. L'épouvante se cramponne du poing au crin des chevaux. et l'aube est là sur la plaine. Oh, j'admire en vérité qu'on puisse avoir de la haine quand l'alouette a chanté. Voilà, Victor Hugo. C'est superbe, non? Donc, nous allons suivre en voyant flotter sur la Seine. En voyant flotter sur la Seine des cadavres prussiens. Oui, vous êtes venu et vous voilà couché. Vous voilà caressé, porté, baisé, penché sur le souple oreiller de l'eau molle et profonde. Vous voilà dans des draps froids et mouillés de l'ombre. De l'onde, c'est bien vous, fils du Nord, nu. Sur le flot dormant, vous fermez vos yeux bleus dans ce doux bercement. Vous aviez dit « Allons chez la prostituée !» Babylone, au baiser du monde habitué, est là-bas. Elle abonde en rire, en chanson. C'est là que nous aurons du plaisir. Oh, Saxon, oh, Germain, vers le sud, tournons notre œil oblique. Vite, en France, Paris, cette ville publique qui, pour les étrangers, se farde et s'embellit, nous ouvrira les bras. Et la Seine, son lit. Je ne sais si je vais. Je ne sais si je vais sembler étrange à ceux qui pensent que devant le sort trouble et chanceux, devant Sedan, devant le flamboiement du glaive, il faut brûler un cierge à Sainte-Geneviève, qu'on serait sûr d'avoir le secours le plus vrai en redorant à neuf Notre-Dame d'Auray et qu'on arrête court l'obus, le plomb qui tonne et la mitraille avec une oraison bretonne. Je paraîtrais sauvage et fort mal élevé aux gens qui dans les coins chuchotent des ave pendant que le sang coule à flot de notre veine et qui contre un canon braque une neuvaine. Mais je dis qu'il est temps d'agir et de songer à la lever en masse, à l'abîme au danger qui, lorsqu'autour de nous, son cercle se resserre, à ce mérite, étant hideux, d'être sincère, d'être franchement fauve et sombre, et de t'offrir, France, une occasion sublime de mourir. J'affirme que le camp monstrueux des barbares, que les ours de leur cage ayant brisé les barres, approchent, que l'horreur des peuples sont émus, que nous ne sommes plus autant des orémus, que les hordes sont là, et que Paris est leur cible, et que nous devons tous pousser un cri terrible. Aux armes, citoyens! Aux fourches, paysans! Jette là ton psautier pour les agonisants générales et faisons hâte une trouée. La Marseillaise n'est pas encore enrouée. Le cheval que montait Kléber n'est pas fourbu. Tout le vin de l'audace immense n'est pas bu. Et Danton nous en laisse assez au fond du verre pour donner à la Prusse une chasse sévère et pour épouvanter le vieux monde aux abois de la réception que nous faisons au roi. Dussion n'eût succombé. D'ailleurs, la mort est grande quand un trop bon chrétien dans la cité commande. Quand je crois qu'on a peur, quand je vois qu'on attend, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas content. Qu'est-ce que vous voulez? Ce chef vers son curé tourne un œil trop humide. Je le vois, soldat brave et général timide, comme le vieil Antel et le vieux d'Aubigné. J'ai des frissements, des frémissements, je frissonne indigné. Nous sommes dans Paris, volcan, fournaise d'âmes, près de 2 millions d'hommes, d'enfants, de femmes. Pas un n'entend ses dires, pas une, et nous voulons la colère plus prompte et les discours moins longs. Et je lirai demain dire à l'hôtel de vie, de ville, que si je ne sentais poindre une guerre civile, ô patrie accablée, si je ne craignais d'ajouter cette corde affreuse à tes poignets et de te voir traîner autour du mur en flammes, dans la fange et le sang derrière un char infâme, d'abord par tes vainqueurs, d'abord ensuite tes fils, Ces fiers Parisiens bravent tous les défis. Ils acceptent le froid, la faim, rien ne les dompte. Ne trouvant d'impossible à porter que la honte, on mange du pain noir, n'ayant plus de pain bis, soit, mais se laisser prendre ainsi que des brebis. Ce n'est pas leur humeur et tous veulent qu'on sorte et nous voulons nous-mêmes enfoncer notre porte et s'il le faut, le front levé vers l'Orient, nous mettre en liberté dans la tombe en criant « Concorde !» En attestant l'avenir, l'espérance, l'aurore. Et c'est ainsi qu'agonise la France. C'est pourquoi je déclare en cette extrémité que l'homme a pour bien faire un cœur illimité, qu'il faut copier Sparte et Rome, notre aïeul, et qu'un peuple est borné par sa lâcheté seule. J'écarte le mauvais exemple, ce lépreux. À cette heure, il nous faut mieux que les anciens preux qui souvent s'attardaient trop longtemps aux chapelles. Je dis qu'à ton secours, France, tu nous appelles, qu'un courage qui chante au lutrin est bâtard, qui sied de tout risquer et qu'il est déjà tard. C'est mon avis. Devant les trompettes farouches, devant les ouragans gonflant leurs voiles noires, devant le nord féroce attaquant le midi, quand nous avons besoin de quelqu'un de hardi et que, lorsqu'il s'agit de chasser les vandales, de refouler le flot des bandes féodales, de délivrer l'Europe en délivrant Paris et d'en finir avec ceux qui nous ont surpris, avec tant d'épouvante, avec tant de misère, il nous faut une épée et non pas un rosaire. Une femme m'a dit ceci. J'ai pris la fuite. Ma fille, que j'avais au sein toute petite, criait et j'avais peur qu'on entendît sa voix. Figurez-vous, c'était un enfant de 2 mois. Elle n'avait pas plus de force qu'une mouche. Mes baisers essayaient de lui fermer la bouche. Elle criait toujours. Hélas! Elle râlait. Elle voulait téter. Je n'avais plus de lait. Toute une nuit, c'était de la sorte écoulée. Je me cachais derrière une porte d'allée. Je pleurais. Je voyais les chats se peau briller. On cherchait mon mari qu'on voulait fusiller. Tout à coup, le matin, sous cette horrible porte, l'enfant ne cria plus « Monsieur ». Elle était morte. Je la touchais « Monsieur ». Elle était froide. Alors cela m'était égal qu'on me tuât. Dehors, au hasard, j'emportais ma fille. J'étais folle. J'ai couru. Des passants m'adressaient la parole, mais je me suis enfuie. Je ne sais plus où. J'ai creusé de mes mains dans la campagne un trou au pied d'un arbre, au coin d'un enclos solitaire. Et j'ai couché mon ange endormi sous la terre. L'enfant qu'on allaita, c'est dur. De l'enterrer. Et le père était là qui se mit à pleurer. Une autre petite histoire. Tout ça, ça s'est passé en 1971 sur une barricade au milieu des pavés, souillée d'un sang coupable et d'un sang pur lavé. Un enfant de 12 ans est pris avec des hommes. Es-tu de cela, toi ? L'enfant dit « Où nous en sommes ?»« C'est bon, » dit l'officier, « on va te fusiller. »« Attends ton tour. » L'enfant voit des éclairs briller, tous ses compagnons tombés sous la muraille. Il dit à l'officier « Permettez-vous que j'aille rapporter cette montre à ma mère chez nous ?»« Tu veux t'enfuir ?»« Non, je voudrais venir. » »« Ces voyous ont peur. Où loges-tu ?» Là, près de la fontaine, et je vais revenir, monsieur le capitaine. Va-t'en, drôle ! L'enfant s'en va, piège grossier. Et les soldats riaient sous leur officier. et les mourants mêlaient à ce rire leur râle. Mais le rire, c'est ça. Quand soudain l'enfant pâle, brusquement, reparut, fier comme Viala, vint s'adosser au mur et dit « Me voilà ». La mort stupide eut honte, et le fissier fit grâce. « Enfant, je ne sais point, dans l'ouragan qui passe et confond tout, le bien, le mal, héros, bandit, ce qui dans ce combat te poussait, mais je dis que ton âme ignorante est une âme sublime, bon et brave, tu fais dans le fond de l'abîme deux pas, l'un vers ta mère et l'autre vers la mort. L'enfant a la candeur et l'homme a le remords, mais tu ne réponds point de ce qu'on te fit faire. Mais l'enfant est superbe et vaillant qui préfère à la fuite, à la vie, à l'aube, au jeu permis, au printemps, le mur sombre où sont morts ses amis. La gloire au fond te baise au haut toit si jeune encore. Doux ami dans la Grèce antique, Stésichore, tu chargé de défendre une porte d'Argos, Cynégyre, tu dis, nous sommes deux égaux, et tu serais admis au rang des purs et faibles par Tyrté à Mécène et par Échille à Thèbes. On graverait ton nom sur les disques des reins, et tu serais de ceux qui, sous le ciel serein, s'ils passent près du puits ombragé par le saule, font que la jeune fille ayant sur son épaule l'urne où s'abreuveront les buffles haletants, pensifs, et regardent longtemps.